La protection sociale a un coût en France. La loi de financement de la sécurité sociale table sur un déficit social cette année de 7 100 millions d'euros. C'est 18,9 milliards d'euros en moins par rapport à 2022. Et bien sûr, on se souvient du déficit record de 2020, près de 39 milliards. Rodolphe Damour, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes. Et quand on pense à sécurité sociale, on pense forcément à déficit. Le système de protection sociale, de toute façon, en France, n'est pas amené à être à l'équilibre.
Alors, c'est vrai que c'est toujours regrettable de parler de la sécurité sociale à travers son déficit. Et en même temps, comme c'est un système complètement socialisé, c'est-à-dire qui repose sur nos impôts, sur nos cotisations, c'est-à-dire sur notre travail, il est un peu aussi normal de se sentir responsable de cet équilibre entre les dépenses d'un côté, dont on sait qu'elles augmentent, et les recettes de l'autre.
La sécurité sociale, on va peut-être rappeler, elle finance quoi? La vieillesse, la maladie, la famille, les ATMP, hein, les accidents du travail et les maladies professionnelles, elle intervient finalement de la naissance jusqu'au décès.
Exactement, c'est ce qu'avaient voulu donc, au sortir de la guerre les personnes qui ont mis en place le système de sécurité sociale, donc en 1945, de constituer effectivement des filets de sécurité à tous les âges un peu clés de la vie, et notamment lorsque effectivement on tombe malade, lorsque on arrête de travailler, donc on n'a plus de salaire, on a aussi des événements qui surviennent comme l'arrivée d'un enfant, et puis petit à petit, en fonction des évolutions sociétales, on a ajouté tout un tas de mesures, notamment autour de la séparation. Mmh. Vous savez que les caisses d'allocation familiale sont impliquées sur ce sujet-là depuis maintenant très longtemps. Et aussi une politique qui est nataliste, c'est-à-dire qui est destinée à trouver des solutions d'accueil pour les jeunes enfants, de façon à ce que, eh bien, on ait aussi un équilibre de travail entre les hommes et les femmes, par exemple.
Est-ce que, j'allais dire, la population française est trop habituée à ce que ce soit un droit? Au final, on y a droit.
Alors, c'est une bonne chose qu'on pense ça d'un côté, et en même temps, on en voit un peu les limites, dans la mesure où on se dit qu'effectivement, consommer, entre guillemets, de la sécurité sociale, c'est pas forcément une bonne chose, effectivement, on n'est pas comptable du volet des recettes, hein, c'est-à-dire que avoir un droit ouvert à dépenser de la consultation, du médicament, c'est sans doute pas une bonne chose. Je suis pas sûr que nos concitoyens soient dans cet état d'esprit, je pense que tout le monde est sensibilisé au fait, mais il faut le redire, c'est vrai, faire beaucoup de pédagogie, je m'en rends compte, tout cela repose finalement sur notre argent à tous, hein, les cotisations du travail, les cotisations aussi des retraités, mais également les impôts financent aujourd'hui tout ce système-là. Donc c'est pas de l'argent qui tombe du ciel.
Aujourd'hui en France, c'est la vieillesse qui coûte le plus cher. C'est la même chose dans les Hautes-Alpes?
Alors oui, on est sur un sujet majeur, hein, complètement d'actualité. Pour autant, les dépenses de santé sont aussi importantes. Ayant en tête que le budget de la Caisse commune, donc la Caisse commune, ça rapproche la CAF et la CEPAM depuis l'an dernier. Hein, nous avons fait ce rapprochement. Nous sommes quasiment à 700 millions d'euros entre les dépenses d'assurance maladie et les dépenses sur les allocations familiales. 700 millions d'euros, vous voyez, à l'échelle d'un département. Pour vous prendre un autre exemple, chaque haut alpin a dépensé en 2022 1 800 euros pour ses dépenses de santé remboursées par la sécurité sociale. Là-dedans, vous avez bien sûr des consultations, vous avez des médicaments, mais vous avez aussi du transport sanitaire, vous avez des indemnités journalières.
1 800 euros?
Oui.
Par rapport à la moyenne française, on est combien?
C'est un petit peu plus, puisque la moyenne française est à 1 500 euros à peu près, mais c'est un petit peu moins que la région PACA, qui est, elle, plutôt autour de 2000.
Ça veut dire quoi? On se soigne plus dans les Hautes-Alpes ou...
Alors, ça peut être effectivement qu'on a un système de soins qui, malgré effectivement ce qu'on peut trouver par ailleurs, hein, c'est-à-dire sujet autour de la désertification, on a quand même encore un recours correct, mais ça peut vouloir dire aussi qu'on a une population qui est vieillissante et donc qui est amenée à consommer un peu plus de soins.
C'est une problématique, non pas un problème, mais une problématique.
C'est une problématique qui est nationale et qui va effectivement trouver qui va l'être encore plus dans certains territoires. On le sait, notamment les territoires ruraux où on n'a pas forcément un renouvellement démographique démographique important. Et donc, il faut compter un petit peu aussi sur les nouveaux arrivants. Mmh. Hein. Vous savez qu'on a, on a en tête là un peu un exode des grandes villes après le Covid. Et c'est vrai que c'est un sujet important parce qu'il y a un effet ciseau. Hein. D'un côté, une population qui vieillit, qui est amenée à consommer plus. Et de l'autre côté, ben, on le sait, hein, une offre de soins, notamment à travers les médecins de ville, hein, les médecins libéraux, qui a tendance à diminuer.
Ouais. Alors, parlons justement des médecins sur plusieurs sujets. On a beaucoup parlé de la sécurité sociale en ce moment, notamment de la caisse d'assurance maladie par rapport au prix de la consultation. Mmh. Il y a eu plusieurs discours, mmh. mais en tout cas le discours dans les Alpes du Sud de l'ordre des médecins, c'était de dire nous on veut pas forcément que la consultation passe à 50 euros. C'est pas ça, qu'elle soit peut-être un peu réévaluée. Non, nous ce qu'on attend c'est une offre de soins un peu mieux répartie. Il y a assez de médecins dans les Hautes-Alpes.
Mmh. Alors dans l'absolu oui. Hein, si on regarde les chiffres, nous avons dans les Hautes-Alpes à peu près 110 médecins. Pour 100 000 habitants, c'est le ratio qu'on utilise habituellement pour faire des comparaisons. Au niveau national, c'est 82. Donc, si on en reste à ce chiffre-là, on peut dire qu'on n'est pas, dans l'absolu, dans un désert médical, à proprement parler. Pour autant, il faut nuancer ce propos-là, parce que déjà, de quoi on parle quand on parle d'offres médicales ? Là, j'étais sur les généralistes, mais si on regarde certaines spécialités, je pense aux pédiatres, je pense aux cardiologues, aux gynécologues, eh bien là, on est carrément en déficit. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment, dans le parcours de soins, lorsqu'il va falloir adresser une personne à un spécialiste, on va être sur une rupture, vous voyez,
potentiellement une rupture. Comment on fait pour attirer des spécialistes ?
Ah, alors ça, c'est le vaste sujet de l'attractivité. Ben, je crois que déjà, il faut se bagarrer, et je crois que toutes les institutions alpines sont sur ce registre-là, pour rester un territoire attractif. Et pour ça, c'est vrai qu'il faut être à l'écoute. Vous soulignez l'attitude peut-être plus responsable dans les Hautes-Alpes des médecins par rapport à effectivement à des revendications qu'on a pu entendre ici ou là. Mais il y a aussi le sujet des services publics. Hein. Mmh. Des médecins, ils sont comme tout le monde, ils n'ont pas envie de s'installer dans un endroit où il n'y aurait pas d'école, où il n'y aurait pas de centre de loisirs, où il n'y aurait pas de cinéma, d'offres de culture. Donc à nous aussi de veiller, et c'était un peu aussi ce qu'on a souhaité faire, hein, à travers le rapprochement de la CAF et de la CEPAM, bien, c'était de maintenir un service public sur notre territoire. Puisqu'on savait qu'on était fragile en étant deux petits organismes. Et donc, je pense que voilà, si les services publics se maintiennent, si on est en capacité, et on a quand même un territoire qui est exceptionnel de par notamment sa qualité de vie, eh bien, on aura envie de s'installer là. Mmh. Après, il faut aller voir les médecins dans les facs de médecine. Hein. Vous savez que les facs de médecine sont plutôt dans les grandes villes, à Marseille ou à Grenoble. Mmh. Et la facilité, eh bien, c'est effectivement de s'installer pas très loin de là où on a fait ses études. Et à nous d'aller les convaincre que c'est très bien aussi de s'installer dans les Hautes-Alpes.
Tout à l'heure, avant l'antenne, vous me disiez tout le monde n'est pas doté en médecin traitant. C'est pourtant, j'allais dire, presque une évidence de dire on a un médecin traitant. Ouais. Et non, dans les Hautes-Alpes, tout le monde n'a pas un médecin traitant.
Non, on a à peu près 6 000 assurés de plus de 16 ans qui n'ont pas aujourd'hui de médecin traitant. Et donc, ce qui est embêtant, parce que vous savez que ça conditionne notamment le bon remboursement, hein, de la consultation. Mais vous avez aussi, et ce qui est pour moi, si vous voulez, un facteur aggravant, c'est que on a parmi ces assurés-là des personnes qui sont en affection longue durée, qui ont des maladies chroniques, qui devraient être prises en charge et suivies par un médecin traitant. Et c'est pour ça qu'on va lancer une vaste campagne prochainement de détection de tous ces patients qui sont en affection longue durée et qui n'ont pas déclaré médecin traitant, pour comprendre pourquoi, et essayer d'avoir un dialogue avec les offreurs de soins, les praticiens, pour effectivement accueillir ces patients-là qui, on va dire, sont quand même prioritaires aujourd'hui.
Merci beaucoup, Rodolphe Damour, d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes le directeur de la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Merci.